toutes et tous. On va commencer par un quiz, 24 février 2022. Bien joué. Début de l'invasion russe en Ukraine. Invasion injustifiée, en tout cas selon certains points de vue, d'un pays souverain, l'Ukraine, au nom d'une hypothétique lutte contre le nazisme, mais en réalité, volonté de remettre en place la vision de la Grande Russie. Conflit complexe, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, qui risque de durer dans le temps, et dont les principales victimes, comme souvent, malheureusement, sont civiles. Alors très vite, moi je me suis intéressé au conflit, notamment en lien avec l'aide humanitaire et les déplacements de réfugiés, en lien avec mon travail. Et je tombe sur un article à ce moment-là, un article faisant état d'un syndrome dont souffrirait Vladimir Poutine. Le syndrome d'hubris. Si vous avez fait des études grecques ou latines, vous savez ce que c'est. Sinon, je vais vous le dire quand même. Ce syndrome, ça vient de l'Antiquité grecque et ça a été notamment utilisé dans la littérature pour renvoyer à la démesure provoquée par le pouvoir et ses conséquences néfastes. Et en neuropsychiatrie, à l'heure actuelle, on parle de ce syndrome d'hubris depuis 6 ou 7 ans, comme l'explique un neuropsychiatre Jacques Touchon. On utilise ce terme pour définir les troubles du comportement liés à la démesure. Alors, ce syndrome d'hubris toucherait principalement les personnes qui détiennent du pouvoir à petite ou à très grande échelle. Il se traduirait par du narcissisme, un culte de la personnalité ou encore une contestation du droit. Autant de traits de personnalité qu'on pouvait ou qu'on selon en tout cas ces analystes-là, qu'on peut retrouver chez le dirigeant russe. Dans la Bible, il y a certaines difficultés, vous ne l'ignorez pas, et l'une de ces difficultés, pour moi, se trouve dans Romains 13. Je lis ce passage. « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. » C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est le serviteur de Dieu, pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Alors, probablement que Paul exprime cette pensée de façon très contextuelle, et on sait que dans le contexte, les premiers chrétiens romains cherchent à faire profil bas, à être des citoyens comme les autres, qui ne font pas de remous et qui surtout ne remettent pas en cause le pouvoir établi. N'empêche, ça me pose difficulté. Quand je conçois certains régimes autoritaires, comme le nazisme à l'époque, d'autres aujourd'hui, Corée du Nord, le poutinisme, je ne sais pas si on peut dire l'appeler comme ça, et en tant que chrétien, me verrais confronté à ces situations, pas vraiment dans le rôle d'un citoyen docile, à vrai dire, mais plutôt d'un maquisard ou d'un résistant au pouvoir. Peut-être le petit côté rebelle en moi, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est facile à affirmer de telles choses quand on n'y est pas confronté. Alors l'histoire est pleine de rapprochements entre religieux et politiques, certains utilisant clairement la religion et son influence supposée ou réelle à des fins politiques. Hein, en France, avant 1789, on a appelé ça la monarchie de droit divin. C'était bien pratique, C'était Dieu qui avait directement délégué le pouvoir au roi, et donc personne ne pouvait contester. Alors, ça ne date pas d'avant la Révolution française, ça date bien d'avant. Et puis, ça continue aujourd'hui. Et peut-être vous avez entendu un certain discours du patriarche de l'Église orthodoxe soutenant ouvertement l'offensive russe, qui a donné lieu à des pétitions, notamment des cercles évangéliques en Europe, par rapport à ça. Bref, certains diraient aussi, ne mêlons pas politique et religion, on sera bien plus tranquille. En tous les cas, une des premières pensées qui m'est venue au départ de ce conflit et de cette question de l'hubris, la démesure, a été pour un roi dans la Bible, le roi de Babylone, Nabucodonosor. Nabucodonosor, autrement appelé Nebuchadnezzar, voilà, c'est un tout petit peu plus court, peut-être je vais employer celui-là, je n'ai pas trouvé de surnom mieux. Un nom mythique, un roi mythique, roi de l'empire néo-babylonien entre 605 et 562 avant Jésus-Christ. Alors, il a régné sur le plus vaste empire qui est dominé Babylone. Hein, il s'est constitué au fur et à mesure des années. C'est un bâtisseur. Il a fait ériger nombreux monuments. Et pendant un temps, on lui a même attribué les fameux jardins suspendus de Babylone, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui sont l'une des sept merveilles du monde. Alors, on n'a retrouvé aucune trace réellement, mais voilà. C'était un roi guerrier, un roi cruel, un roi aussi bâtisseur, et c'est comme ça que les rois laissent des traces en bâtissant des choses, bien souvent. Alors, peut-être ceux qui aiment voir les cartes, on peut passer une carte à l'écran, si Pedro, tu peux l'afficher. Juste pour... Donc, à gauche, vous avez le royaume de Nabucodonosor. Et à droite, vous avez une carte actuelle. Donc, ça vous permet de vous situer l'ampleur du royaume. Hein. Donc, c'est une sorte d'arc de cercle, une forme de boomerang, qui démarre à droite du Koweït actuel, hein, du Golfe Persique quasiment. Ça remonte vers Bagdad, la Syrie, le sud de la Turquie. Et ça redescend tout le long du littoral méditerranéen avec le Liban, Israël actuel, et une poche un peu plus bas au niveau de l'Arabie saoudite qui était également incluse. Donc vous voyez pas mal de territoires à gérer avec des rois vassaux qui se révoltaient de temps à autre. Alors je ne vais pas entrer dans un détail des conquêtes territoriales de Nebuchadnezzar, mais en 597, souvent ce qui se passait c'est qu'on venait prélever des impôts. Bien développé à l'époque, donc on asservissait les peuples alentour et ils devaient payer un tribut ou des impôts finalement. Nebuchadnezzar a fait sa tournée des différents rois du coin et celui de Juda, Joachim ou Jojakim, refuse de payer et ni une ni deux, Nebuchadnezzar s'énerve et le réprime assez durement. Babylone assiège Jérusalem. Et en 597, le roi est tué, le roi de Juda, et son fils, Jojakim, et d'autres notables et lettrés du royaume de Juda sont exilés. C'est le fameux exil, la déportation à Babylone. Et c'est à ce moment-là aussi que Daniel est déporté, puisqu'il faisait partie un peu de cette haute classe judéenne, on va dire. Voilà un peu pour le contexte. Maintenant, j'aimerais vous inviter à lire un récit qui m'interpelle depuis quelque temps, dans Daniel 4. Je vais lire dans la version second 21. Et puis, on va essayer de percevoir quelques leçons autour de l'histoire du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Daniel 4. « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est trop difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits. Que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches. Mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 temps passeront sur lui. » Cette parole est un décret des veilleurs, cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. Un peu de pression, Daniel. Alors Daniel, verset 16, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit. Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belshazzar répondit. Monseigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort et dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. » Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme au bœuf, au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Verset 25, tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama. N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ? Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages. On te donnera aux bœufs de l'herbe à manger et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il désire. Au même moment, au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. On arrive à la fin. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ?» À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Amen. Voilà un récit qu'on ne lit pas tous les jours. Hein. Un récit bien particulier qui met en scène un roi qui fait un cauchemar et un déporté qui interprète les rêves, Daniel. Alors ce dernier, Daniel, est assez spécialiste en la matière, comme on le voit tout au long du livre qui porte son nom. Et c'est vrai que c'est même une spécialité juive que d'interpréter les rêves des rois. Hein, on se souvient de Joseph avec le pharaon, par exemple. Alors, Daniel est associé aux astrologues et autres devins chaldéens. Vous avez vu que Nebuchadnezzar sort un peu toutes les ressources qu'il a à disposition, la grande armada. Et en fait, en dernier recours, il fait appel à Daniel. Alors, en ayant déporté à l'époque les notables et lettrés de Jérusalem, le but, c'était quoi ? C'était clairement... On s'est focalisé sur l'élite du peuple, quelque part, sur les notables. Et le but était clairement de leur faire perdre leur identité juive. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Daniel et aussi ses amis, si vous vous souvenez, qui se sont retrouvés dans la fournaise ardente avec lui, ont reçu des surnoms chaldéens. Voilà, faire perdre votre identité, on vous donne un autre nom. Alors, intérieurement, évidemment, il restait toujours Daniel. Mais intéressant de s'arrêter deux minutes sur les significations de Belshazzar. Alors j'ai trouvé deux significations entre Belshazzar et Belshazzar, donc il y a un T en plus, voilà. On trouve un peu les deux. Donc, que Bel protège le roi, donc Bel c'était un dieu chaldéen. Et puis l'autre signification c'est celui qui amasse des trésors. Je trouvais ça assez intéressant. Parce que Daniel était réputé pour être un jeune homme qui avait des trésors, non pas des trésors matériels, mais des trésors de connaissances et de perspicacité. Et finalement, son identité s'est trouvée renforcée, grâce à Dieu évidemment, à travers ce surnom qui lui a été donné. Et si on lit un peu plus tard dans le livre de Daniel, au chapitre 5, verset 12, hein, donc, un autre moment où Daniel va être rappelé pour interpréter un rêve, on dit qu'il est un esprit supérieur, il a de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Alors on sait bien évidemment que Daniel était inspiré par Dieu et que c'était Dieu qui lui donnait cette faculté, contrairement aux astrologues et autres devins. Voilà pour la parenthèse sur Daniel. Maintenant, venons-en à l'allégorie de l'arbre. Alors, l'allégorie, je ne vais pas entrer dans les détails, elle parle plutôt bien d'elle-même. Mais pour moi, je me suis posé une question, c'est est-ce qu'elle dépeint vraiment Nebuchadnezzar ? Et pour moi, elle dépeint ce que Dieu attend d'un souverain. Hein, verset 7. « Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. » Et voilà ce que Dieu attend d'un souverain. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre, les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Alors c'est une allégorie parce que Nebuchadnezzar est comparé à... J'ai des profs de français dans la salle, j'ai une petite pression là. Nebuchadnezzar est comparé à un arbre, mais la suite du récit nous montre que les humains sont comparés aux bêtes sauvages sous son ombre et aux oiseaux qui font leur nid, qui s'abritent sous lui. Enfin, moi qui le dis, c'est Calvin qui le dit, que c'est une allégorie. Hein. Alors, que dit Calvin, justement, dans son commentaire, qui m'a inspiré pour ce passage, sur les bêtes sauvages qui s'abritent sous son ombre et les oiseaux qui font leur nid dans ses branches? Et bien, ce qu'il dit, c'est assez en phase avec Romains 13, en tout cas une partie de Romains 13, c'est que nous sommes à l'abri de la protection des magistrats. Aucune chaleur du soleil ne dessèche et ne brûle les hommes misérables comme vivants, privé de cette ombre sous laquelle Dieu a voulu qu'il repose. Autrement dit, c'est un peu le souverain selon le plan de Dieu. Hein, qu'est-ce qu'il est censé apporter? Il est censé apporter la protection, la sécurité physique et la sécurité alimentaire. Et il y a une raison bien simple pour laquelle les hommes ont besoin d'un souverain. Évidemment, il y a des mouvements type anarchistes qui réclament l'abolition de tout gouvernement. Voici encore ce que Calvin dit là-dessus. Une protection est nécessaire si nous réfléchissons à la grande fierté naturelle à tous, autrement dit notre orgueil humain, à l'aveuglement de notre amour propre et à la fureur de nos convoitises. Comme c'est le cas, Dieu montre dans ce rêve comment tous les ordres parmi nous ont besoin de la protection des magistrats, tandis que pâturage, nourriture et abri signifient les diverses formes d'utilité que nous fournit l'ordre politique. Certains pourraient s'y opposer, ils n'ont pas besoin de gouvernement pour une raison ou pour une autre, car si nous nous acquittons convenablement de tous les devoirs de la vie, nous le ferons toujours. Voilà ce que Calvin dit là-dessus. Donc en gros, le souverain est nécessaire pour la protection du peuple et pour éviter que tout le monde s'entretue, pour résumer. La suite du récit est intéressante. Il y a un personnage particulier qui intervient, qui est appelé le veilleur. Ce personnage va intervenir pour porter le message divin et le châtiment prévu par Dieu pour casser l'orgueil du roi. Le veilleur, c'est un ange. Il est autrement, dans d'autres traductions, appelé aussi l'observateur. Donc on peut imaginer que Dieu a observé, qu'il a vu et qu'il fait de la veille, comme on dit, sur certaines choses. Et maintenant, il vient annoncer ce châtiment divin, ce décret divin. Et celui-ci, si on reprend le texte, il est clairement et terriblement avilissant et dégradant pour celui qui se prend pour le roi de la terre. Alors, c'était classique hein, dans l'Antiquité de se prendre pour le roi de la terre. Les Romains pensaient qu'ils dominaient toute la terre, les Grecs aussi. Mais lui se faisait appeler aussi le roi des rois. Alors, quand on lit la façon dont le souverain est dépeint, l'arbre protecteur, etc., nourricier, on peut se demander si la sentence n'est pas un petit peu disproportionnée. Et on peut se demander effectivement si la description est un idéal divin ou la réalité de l'attitude de Nebuchadnezzar envers son peuple. Pour moi, et je l'ai déjà un peu avancé, il me semble que c'est plutôt l'idéal divin qui était décrit et non pas la réalité de ce que Nebuchadnezzar faisait vivre à son peuple. Et il y a un indice qui me laisse à penser que ce souverain conquérant et cruel, vis-à-vis des peuples soumis en tout cas, était en fait assez loin de l'image de l'arbre. Et ça se passe au verset 24. Et donc c'est juste après l'interprétation de Daniel, voilà ce qu'il dit. « C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Tout laisse donc à penser que Nabucodonosor n'est pas ce souverain idéal dépeint dans l'allégorie. Et l'Éternel attend deux autres qualités d'un dirigeant. Et je pense que c'est valable pour les dirigeants politiques, mais aussi pour tout type de dirigeant, que ce soit en entreprise ou autre. La première qualité, c'est pratiquer la justice. Et la deuxième qualité, c'est faire grâce aux plus humbles ou aux plus pauvres. Et il est clair, si on regarde l'histoire des conquêtes de Nebuchadnezzar, que son règne était entaché de nombreuses injustices, hein, annexant des territoires souverains par ailleurs, déportant en exil les populations lettrées dans le but de les babyloniser, et pillant au passage toutes les ressources de ces territoires, et avilissant aussi les peuples soumis. Hein, on peut se rappeler que, par exemple, il a pillé le temple de Jérusalem, notamment tous les objets en or et la vaisselle. Alors, ce que rappelle Daniel ici, c'est deux éléments clés, finalement, du message biblique à travers les âges et à travers les expériences politico-religieuses que nous montre la Bible quand même pas mal. C'est qu'un dirigeant doit pratiquer la justice et respecter les droits des plus humbles, autrement dit des plus pauvres. Pour moi, c'est un message super actuel, je ne sais pas pour vous. Et finalement, c'est sur ces deux éléments, puisque Daniel lui donne en tant que conseil, c'est sur ces deux éléments qu'il a failli, cela et son orgueil. Alors, que nous dit la suite du récit? Et on va passer à cette deuxième partie que j'ai intitulée « L'hubris de Nebuchadnezzar et ses conséquences ». L'interprétation de Daniel, donc ça se passe à partir du verset 26, l'interprétation de Daniel se termine un petit peu abruptement et on n'a pas dans le récit la réaction immédiate du roi. Bon, on peut penser qu'il ne l'a pas jeté en prison, sinon ça aurait été marqué. Mais on peut imaginer que ça l'a peut-être perturbé quelque temps et qu'il est passé à autre chose. Et on va le retrouver une année plus tard. Nebuchadnezzar, tranquille, comme au début du chapitre, il est tranquille dans son palais et il se promène, verset 26, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et s'exclama, « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, on te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » Tous les ingrédients de l'hubris sont présents. Et ça se traduit dans les hyperboles utilisées hein, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. Moi, je vois bien les chevilles qui gonflent. Pas mal, hein, pas mal dans le style. La conséquence, elle est immédiate et la sentence de Dieu s'accomplit pour le roi. Et on peut se demander de quelle maladie le roi a-t-il été frappé. Selon ce que j'ai lu à gauche à droite, il s'agirait a priori d'une maladie mentale et selon certains, il s'agirait de boanthropie, une maladie mentale très rare qui fait qu'on se prend pour un bœuf. Intéressant. Alors vous connaissez peut-être la lycanthropie ou le syndrome du loup-garou. Donc ça existe vraiment apparemment, des hommes qui se prennent pour des loups, c'est une maladie mentale. Et bien là, c'est la boanthropie. On se prend pour un bœuf. Symbolique assez humiliante pour le roi des rois de la terre entière, n'est-ce pas? Voici ce que dit Calvin. Le roi Nebuchadnezzar devait être privé pendant un certain temps non seulement de son empire, mais même de son sens humain, et ne serait en rien différent des bêtes, puisqu'il n'était pas digne de tenir même la plus basse place parmi l'humanité. Bien qu'il ait semblé surpasser la race humaine dans son élévation, il doit pourtant être jeté à terre et jeté au-dessous même des plus bas mortels. Voilà, voilà, comme dirait l'autre. Donc ça devait être assez grave parce qu'il devait être enchaîné et finalement laissé livrer à lui-même, mouillé par la rosée du ciel. On imagine qu'il devait dormir sous un abri, peut-être qu'on lui avait fabriqué. Voilà une situation de bassesse incroyable pour un roi qui se tenait lui-même en haute estime. Alors, la réhabilitation de Nabucodonosor. Pour moi, il y a une vraie question, et je ne sais pas si j'ai la réponse, c'est est-ce que c'est une véritable repentance ? La fin du récit, à partir du verset 31, on va relire ça. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle, et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ?» À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté, ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. Quand même. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. À un moment donné, et selon les interprétations au bout de 7 ans qui pourraient correspondre à 7 années, on ne sait pas vraiment bien pourquoi Nebuchadnezzar recouvre la raison. Il y a un indice quand même qui est intéressant, c'est que cela arrive à un moment particulier, au moment où il regarde vers le ciel. C'est rare qu'un bœuf regarde les avions. Souvent les vaches regardent passer les trains plutôt, hein, à leur hauteur. Le bœuf lève la tête vers le ciel. Intéressant. Regarder vers le ciel est toujours bon. Je dirais que ça nous refocalise sur l'essentiel, sur celui qui tient notre vie, notre raison mentale et notre raison d'être. Regarder vers le ciel, ça nous fait sortir de nos faux raisonnements, de nos spirales de pensée qui nous entraînent vers le bas, à l'image du bœuf qui broute. Le bœuf redevient l'humain, mais son passage par l'humiliation totale semble avoir transformé son cœur. Évidemment, son discours au verset 31 qu'on vient de lire est à mettre en parallèle avec sa déclaration imbue de lui-même du verset 27. Et là, c'est un contraste saisissant. Hein, voilà ce qu'il dit. « J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. » Le roi de la terre est forcé de s'incliner devant le roi des cieux. Celui dont le règne n'a pas de fin. Hein, le but premier d'un des rois d'une dynastie des Chaldéens, c'était de perpétuer le royaume. Et ça s'est plus ou moins délité avec le temps. Et là, on a un roi qui subsiste de génération en génération. Et c'est rassurant. C'est rassurant parce que ce roi est protecteur, ce roi est nourricier, et c'est le roi des rois, le roi du ciel. Quelle prise de conscience pour Nebuchadnezzar. C'est après cette déclaration, c'est après avoir professé de sa bouche ces paroles de vérité sur le roi des rois, sur Dieu, que la raison lui revient. Intéressant. Quelles conséquences pour la suite de sa fonction ? Alors, il semble que tout soit rétabli, en mieux même, puisque sa puissance a grandi. Bonne question de savoir si c'était le plan de Dieu que la puissance de Nebuchadnezzar grandisse encore. Je n'ai pas de réponse. On a peu de détails sur son attitude. Est-ce qu'elle a vraiment évolué ? Les petits indices qui nous disent qu'il n'a pas vraiment forcément changé, comme lorsqu'il dit « mes serviteurs m'ont réclamé », quand même, le boss est de retour. On n'a pas la suite des actes de Nebuchadnezzar. On sait juste qu'après lui, ça a été un peu plus chaotique. Il y a eu deux rois qui ont régné très peu, et puis il y a eu ensuite un nouveau roi qui est inscrit dans Daniel 5. Mais il reconnaît en tout cas une chose, c'est que la justice de Dieu est là, elle est importante, et elle peut quand même s'inscrire dans notre humanité, malgré des monarques compliqués et imbus d'eux-mêmes. Il met aussi en avant l'importance de l'humilité, et on peut dire, sans faire une étude trop compliquée, qu'il y a peu de dirigeants dans l'histoire de notre monde qui ont, à vrai dire, pratiqué la justice et rendu leurs droits aux personnes humbles. Que nous dit Calvin ? Ce sera la dernière fois que je vais le citer, sur les monarques de son époque. Et je vous invite à mettre cette réflexion de Calvin en parallèle avec ce que j'ai lu au tout départ sur Romains 13. Voilà ce qu'il dit. « De nos jours, les monarques, dans leur titre, se présentent toujours comme rois, généraux et comtes, par la grâce de Dieu. Mais combien prétendent faussement s'appliquer le nom de Dieu dans le but d'assurer le pouvoir suprême ? En attendant, ils piétinent volontiers ce que Dieu, avec le bouclier duquel ils se protègent, ce Dieu avec le bouclier duquel ils se protègent. Ils sont loin de penser sérieusement à régner par sa permission. C'est donc une simple prétention de se vanter qu'ils règnent par la faveur de Dieu. Puisqu'il en est ainsi, nous pouvons facilement juger avec quelle fierté les rois profanes méprisent Dieu, même s'ils ne font aucun usage fallacieux de son nom, comme ces insignifiants qui le faussent ouvertement et profanent ainsi le nom de sa grâce. » Pas par quatre chemins, hein, Calvin. Bon, il était tranquillement à Genève, il était assez protégé, je crois. Conclusion de notre récit. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour nos vies d'aujourd'hui ? Premièrement, une chose que vous savez, un principe général, quelque chose de simple, mais en même temps on ne peut plus important pour nos vies personnelles, c'est que l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Principe fondamental, illustré dans la Bible à maintes reprises et dans notre société malade d'aujourd'hui. Deuxièmement, et à titre plus personnel, on a tous des difficultés, on a tous quand même aussi des succès, des réussites. Quelle est notre attitude quand nous réussissons ? Est-ce que nous pensons toujours à rendre l'honneur à notre Créateur autant qu'on le devrait ? Même s'il nous a donné des capacités, intellectuelles, physiques ou autres, toute la gloire lui revient. Et rappel, et on n'a que des gens très humbles dans cette église de toute façon, un rappel, toute la gloire revient à Dieu. Et n'oublions jamais cela dans nos succès. Et n'oublions pas non plus que nous sommes ultra dépendants de lui et que nos vies sont finalement d'une fragilité incroyable. N'est-ce pas ? Nos vies sont d'une fragilité incroyable, mais elles sont toutefois entre les mains du Dieu souverain de la terre, celui qui est capable d'abaisser l'orgueil des rois et des puissants. Et si on se confie à lui, on ne sera jamais confus. Si on se confie à lui, nos chemins seront tracés, que ce soit sur cette terre ou par la suite. Et c'est rassurant. Alors qu'on est dans un monde de plus en plus confus, si on peut le dire, c'est rassurant de se savoir dépendant du roi des rois. Veillons à être toujours conscients de ça. J'avais dit que je citerais Calvin une dernière fois, tout à l'heure. En fait, c'était l'avant-dernière. Voilà ce qu'il dit là-dessus. Surtout, quand Dieu nous élève à un degré quelconque de dignité, nous nous oublions d'être des hommes. Nous lui enlevons l'honneur de Dieu et le désir de nous substituer à lui apparaît. Cette maladie se guérit difficilement et le châtiment que Dieu a infligé au roi de Babylone est un exemple pour nous. Un léger châtiment aurait suffi, à moins que cette folie n'eût été profondément ancrée dans ses entrailles et sa moelle, puisque les hommes se revendiquent la propriété particulière de Dieu. C'est pourquoi ils ont besoin d'une médecine violente pour apprendre la modestie et l'humilité. On n'oserait plus dire ça dans une église aujourd'hui. J'ai terminé en vous laissant un proverbe qui me guide à travers ma marche avec Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen.